Fini le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, mais est-ce le retour de la guerre pour autant ? C'est Téhéran qui a tiré le premier en visant des navires alliés des Américains. Washington a répondu par des tirs de missiles alors que les armes s'étaient tues depuis près d'un mois. Une escalade éclair, mais jusqu'où ? Donald Trump lui prédit une fin rapide. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois un spécialiste des relations internationales, Guillaume Lagane, enseignant à Sciences Po. Je l'interroge, pourquoi reprendre les hostilités alors même qu'un accord de paix est en train d'être négocié ? Qui veut vraiment la paix en Iran ? Et à quel prix ? Car l'idée est aussi de faire pression sur les États-Unis. Donald Trump n'a qu'une envie, rouvrir le détroit d'Hormuz. L'économie mondiale en a tant besoin. Je suis Zacharie Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. Ce son, c'est celui de missiles iraniens, tirés dans la région du Golfe contre des cibles américaines. Il semble que la guerre soit en train de reprendre. Et pourtant, la dernière fois que je vous ai parlé de l'Iran dans ce podcast, c'était au sujet d'un projet d'accord de paix.
Nous venons de trouver un très bon accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. Et une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe.
Un protocole d'accord signé le 15 juin dernier, qui prévoit notamment la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Hormuz, passage obligé de 20% du pétrole mondial, bloqué par l'Iran après le début de la guerre. Guerre initiée par des bombardements israélo-américains fin février, et c'est dans ce même détroit que les hostilités ont repris ce lundi 6 juillet. Le navire Al-Rakayat vogue au large d'Oman, pays qui fait face aux côtes sud de l'Iran. Il s'agit d'un méthanier qatari, pays allié des États-Unis, qui se retrouve soudainement visé par un projectile non identifié. Pour le gouvernement du Qatar, cela ne fait aucun doute. C'est l'Iran. Pas de morts, pas de blessés, mais dans les 24 heures qui suivent, deux autres navires commerciaux sont visés dans le détroit, ce que confirme une agence de sécurité maritime britannique. Face à ces attaques iraniennes, les États-Unis dénoncent une violation flagrante du cessez-le-feu. Première réponse, des sanctions économiques. Elles avaient été suspendues dans le cadre du protocole d'accord. Les voilà de retour. Les transactions d'hydrocarbures iraniens sont de nouveau interdites par Washington. Mais l'armée américaine annonce également une série de frappes puissantes contre l'Iran. Plus de 80 cibles, dont des systèmes de défense antiaérienne. En Iran, les médias parlent de plusieurs explosions sur des sites proches du détroit d'Hormuz. Et cette fois, c'est Téhéran qui accuse les États-Unis d'avoir violé le protocole d'accord. Ces sirènes sont le signe de la réponse iranienne. Des alertes aériennes au Koweït, cible de représailles iraniennes, tout comme le Bahreïn, des attaques de drones et de missiles lancés par les gardiens de la Révolution contre des bases militaires américaines situées dans la région. À ce moment-là, Donald Trump est à Ankara, en Turquie, pour un sommet de l'OTAN, l'alliance militaire agrégée autour des États-Unis. Et lorsqu'on l'interroge sur l'état du cessez-le-feu avec l'Iran, il répond « It's over, c'est terminé. Quant à l'Iran, c'est à ses yeux un pays malade. Il menace même de représailles supplémentaires.
Nous venons de les frapper très fort. Et je dirais que nous les avons frappés 20 fois plus fort. Chaque fois qu'ils nous frappent, nous ripostons 20 fois plus fort. »
Mercredi soir, l'armée américaine a mené une nouvelle série de frappes sur 90 cibles. Le président Trump est soutenu par ses alliés, notamment ses alliés de l'OTAN et son secrétaire général, Mark Rutte.
Je pense que c'était absolument nécessaire, car lorsqu'il y a un cessez-le-feu et que l'Iran le viole de fait, on a vu ce qui s'est passé hier avec les navires attaqués, je pense qu'il est totalement crucial que les États-Unis réagissent avec fermeté.
On peut déjà dire que le trafic dans le détroit d'Hormuz a chuté depuis la reprise des tirs. 20 navires le 6 juillet, 11 le lendemain, presque aucun ensuite. Quant au prix du pétrole, eh bien il grimpe. Plus 8% pour le baril européen, 7,5% pour l'américain. Les deux sont à leur plus haut niveau depuis plus de deux semaines, plus de $80. Toutefois, à ce sommet de l'OTAN, Donald Trump avait dessiné une issue à cette escalade.
Je pense que ce qui se passe va prendre fin très rapidement et nous ne ferons que renforcer la sécurité, y compris pour le pétrole. Le pétrole sera très accessible, très facile à obtenir et cela se fera très rapidement. Nous avons le détroit d'Ormuz, les navires se sont retirés, il y a actuellement un flux important de pétrole, nous disposons de beaucoup de pétrole. Tout ce qui s'est passé va se produire très rapidement, nous n'avons pas l'intention de continuer sur le long terme.
Par ailleurs, Donald Trump disait laisser la porte ouverte à la poursuite des tractations diplomatiques avec Téhéran. Est-ce toujours le cas ? Emmanuel Macron, lui, y croyait aussi.
Il y a eu une violation de cet accord par les frappes iraniennes qui ont conduit à une réponse américaine. Je pense que les Iraniens ont tout tort de faire ces frappes qui contreviennent à ce qu'ils ont eux-mêmes signé. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre des 60 jours. Ma compréhension, c'est que les réunions qui sont prévues dans ce cadre vont continuer de se tenir et il faut continuer d'avancer avec beaucoup de calme, de sang-froid et de patience. Et nous défendons toujours le même agenda.
Ces 60 jours, c'est le délai laissé aux négociateurs américains et iraniens pour aboutir à l'accord de paix permanent. Il expire le 21 août. Ce jeudi, l'Iran inhume son ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, après 6 jours d'hommage. Mais Téhéran accuse les États-Unis d'avoir visé des infrastructures civiles pour faire de l'ombre aux funérailles. Des ponts, la liaison ferroviaire entre Téhéran et Machad, où l'ex-guide doit être inhumé, un crime de guerre flagrant, d'après l'Iran, des frappes aussi dans le périmètre de la seule centrale nucléaire en activité en Iran, dans la province de Bushehr, dans le sud du pays. Au total, Téhéran fait état de 17 morts et 93 blessés depuis la reprise des hostilités. En représailles, les forces armées iraniennes ont de nouveau visé des voisins du Golfe, le Koweït, au moins une personne a été blessée, mais aussi Bahreïn et le Qatar, un des médiateurs dans le conflit. Bonjour Guillaume Lagan.
Bonjour Zachary Legros.
Vous êtes enseignant à Sciences Po, enseignant en défense et en relations internationales. Quel est à vos yeux l'intérêt de l'Iran d'avoir initié ces attaques dans le détroit d'Ormuz alors même qu'un accord de paix est en train d'être négocié avec les États-Unis ?
La première hypothèse, c'est que l'Iran veut tirer parti de sa position de force. Elle considère qu'elle a obtenu avec cet accord beaucoup d'avantages. Elle veut pousser cet avantage et elle veut montrer aux États-Unis qu'elle maîtrise le détroit. Donc elle va tirer sur des navires proches des États-Unis, des navires du Golfe, des États du Golfe, pour obtenir des Américains de nouvelles concessions, par exemple de l'argent frais. L'autre hypothèse, c'est peut-être qu'il y a au sein du pouvoir iranien des tiraillements, des divisions, et donc vous auriez des initiatives de l'aile radicale du régime qui veut torpiller l'accord au sens presque propre et qui organise cette montée des tensions avec les États-Unis.
On va prendre la première hypothèse, si vous le voulez bien. L'idée donc que cette montée de tensions servirait d'outil de négociation face aux Américains. Est-ce que ça semble fonctionner ? Est-ce qu'il y a même encore une négociation de cet accord, puisque Donald Trump, le président américain, dit que cet accord est mort, il est terminé, ce sont ses mots.
Bon, il ne faut pas prendre ce que dit M. Trump toujours au pied de la lettre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'accord, il est clairement affaibli. Est-ce qu'il est mort pour autant ? On va voir dans les jours prochains si une négociation reprend entre Américains et Iraniens. À ce stade, en tout cas, la partie cessez-le-feu, oui, elle est morte puisqu'il y a eu des échanges de tirs à 2 reprises depuis la signature. Et là, l'épisode à laquelle on assiste, c'est vraiment le plus sérieux.
Est-ce que l'Iran, si la République islamiste voulait continuer ses frappes, a les moyens de le faire ?
Là encore, c'est très difficile de vous répondre. On peut penser que l'Iran, elle a encore la capacité de lancer des drones sur un certain nombre de navires de commerce. Ça, c'est pas très compliqué à faire. En revanche, ses capacités en matière de lancement de missiles balistiques ou plus largement avec sa flotte, vous savez, moustique, ça, cette capacité, elle a probablement été affaiblie par les dernières frappes américaines.
Oui, parce que les États-Unis ont donc répondu, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait, aux attaques iraniennes. Malgré tout, Donald Trump a dit que cette réponse américaine et cette séquence ne devraient pas durer trop longtemps. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont intérêt à rouvrir rapidement le détroit et donc ça ne sert à rien d'envoyer des bombes autour ?
Depuis le départ, c'est une fragilité de la position américaine. C'est que les États-Unis, ils veulent utiliser des moyens militaires contre l'Iran, mais en même temps, ils ne veulent pas que le prix mondial de l'énergie augmente parce que ça a des conséquences sur le consommateur américain, sur la croissance économique. Donc, on est toujours dans cette problématique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Trump, il a intérêt à dire que les choses ne vont pas durer parce qu'il veut rassurer les marchés. Mais en même temps, la logique de la confrontation militaire, c'est qu'elle risque de de durer jusqu'à ce que l'Iran, en tout cas du point de vue américain, finisse par céder.
Il a des options, Donald Trump, ou alors il est simplement réduit à répondre à ce que fait l'Iran ?
Non, je pense que M. Trump, il a des options qu'il n'a pas encore utilisées. La première et la plus évidente, ça serait de restaurer le blocus du blocus, c'est-à-dire d'interdire à l'Iran d'exporter son propre pétrole. Cette mesure a été quand même assez efficace puisque les exportations de pétrole iranien se sont effondrées en mai et au début juin. Et ça, c'est vraiment une épée de Damoclès qui pèse sur les capacités du régime iranien.
Il y a donc cette idée que les Américains chercheraient la désescalade. Et puis en face, il y a l'hypothèse au contraire d'une escalade. Est-ce qu'il est possible que les Américains autorisent l'allié israélien à reprendre les attaques ?
Alors oui, ça serait une autre option. C'est reprendre en fait l'offensive israélo-américaine sur le régime. Et ça pourrait passer d'ailleurs par l'élimination de nouveaux dirigeants iraniens. Les funérailles de l'ayatollah Khamenei viennent de se terminer aujourd'hui. Elles ont exposé hein, ces dirigeants qui se sont montrés en public. Donc on pourrait imaginer qu'ils soient à nouveau traqués et assassinés par des tirs israélo-américains. Mais ça viendrait en contradiction avec une autre option, qui est de poursuivre malgré tout le dialogue avec le régime. Et pour ça, on a besoin d'avoir en face des interlocuteurs.
Et qu'en est-il des alliés iraniens ? Il n'y a pas d'alliés vraiment de Téhéran tout à fait formels, mais il y a des proximités avec la Russie, avec la Chine. Est-ce qu'ils ont une influence sur le régime ou c'est totalement indépendant ?
Les funérailles de M. Khamenei ont montré que l'influence de l'Iran était quand même assez limitée. Il y a essentiellement des dirigeants de régimes isolés qui se sont rendus à Téhéran, notamment la Russie, M. Medvedev. Et puis on a eu un certain nombre d'alliés de régionaux qui se sont rendus à ces obsèques, par exemple les représentants des Houthis, les représentants du Hezbollah, des représentants de milices irakiennes. Donc l'Iran, elle ne peut pas vraiment compter sur beaucoup d'alliés. Ce qui est certain, c'est que son grand allié objectif, c'est la Chine. Si la Chine décidait de faire pression sur l'Iran sur le plan économique, en arrêtant de lui acheter du pétrole, par exemple, ça serait de nature à modifier la politique de Téhéran.
On a parlé au début de cet entretien de la première hypothèse, si jamais ces frappes iraniennes n'étaient pas un outil de négociation face aux Américains, ça pourrait être au contraire un jeu d'influence d'une partie du pouvoir iranien pour faire capoter justement cet accord. Qu'est-ce que cette idée dit de ce qui se passe à Téhéran ? Il n'y a pas une ligne unique.
Alors, les observateurs du régime sont divisés. Vous avez quand même certains qui remarquent que lors de ces fameuses funérailles, vous avez eu beaucoup de moments de tension entre les radicaux et, je dirais, les modérés, avec un guillemet, dans le pouvoir iranien.
Oui, parce que même si ces funérailles sont très mises en scène, c'est l'occasion rare de voir à quoi ressemble le régime lorsqu'il sort.
Tout à fait. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères, M. Arashghi, a été obligé de quitter le théâtre des obsèques parce qu'il était pris à partie par une foule de radicaux.
Ce ministre des Affaires étrangères qui fait partie de l'équipe de négociateurs avec les Américains.
Voilà, et qui est considéré plutôt comme un modéré. De la même manière, M. Ghalibaf, le chef des négociateurs, le président du Parlement, a vu une intervention télévisée interrompue en direct alors qu'il était en train d'évoquer l'accord. On pense que c'est parce qu'au sein de la télévision iranienne, les conservateurs ont la haute main. Donc il y a de vraies divergences au sein du régime. Maintenant, d'autres observateurs se disent que ces divisions sont apparentes et qu'elles ne sont pas de nature à vraiment bouleverser l'unité du pouvoir iranien. Donc en réalité, c'est un peu une boîte noire, il est difficile d'y voir clair.
Merci Guillaume Lagan d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci beaucoup.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Neil Leboeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.